Mais ce que ça voulait dire, c'est que vous voulez que vous partiez.
Le plus vite possible, il nous offrait 3 mois de loyer si on se trouvait quelque chose ailleurs.
Здаємося і ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дозволить гарантувати безпеку.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Fil 17. Les soubresauts de l'économie ont de quoi nous donner des maux de tête. Hein? Si vous avez fait le plein ce matin, vous avez peut-être fait le saut. L'essence s'affichait à près de 2,02 $ le litre à Laval, à peine moins à Montréal. On va y revenir avec un expert dans un moment. Mais ça reste un autre coup hein, sur notre portefeuille durement éprouvé par l'inflation. Devant la situation économique actuelle et la crise du logement, il y a davantage de citoyens qui risquent de se retrouver à la rue. Eh bien, à Montréal, Valérie Plante promettait de protéger les maisons de chambre. C'est parfois la dernière option là, pour certains de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a des manifestants qui ont dénoncé l'inefficacité du règlement municipal qui devait empêcher des promoteurs immobiliers de les transformer en blocs d'appartements loués pas mal plus cher. J'en parle avec mon collègue Étienne Fortin-Gauthier qui a suivi le dossier. Tu suis pas mal depuis un an.
Absolument.
Salut Étienne.
Hein? Exactement, Michel.
Pourquoi les manifestants trouvent que la stratégie de Mme Plante ne fonctionne pas?
Bien, il y a un règlement qui est en place, donc de Valérie Plante, de son administration. Mais avec ce règlement-là, bien, les autorités municipales, ça leur prend souvent 2-3 mois avant d'agir. Et donc, une fois qu'ils interviennent, bien, tous les locataires, les chambreurs de ces maisons de chambre-là ont été expulsés. Des maisons de chambre, là, c'est vu comme un Klondike pour plein d'acheteurs immobiliers qui disent, on va acheter ce vieux bâtiment-là.
Et on va en faire des appartements.
Exactement. On rénove, mais dans le processus, bien, souvent, ils expulsent tous les résidents. Aujourd'hui, il y a eu cette manifestation-là et la Ville de Montréal qui a confirmé à notre micro qu'elle va en faire plus, qu'elle va poser des gestes pour changer le problème actuel.
Parlons du prix de l'essence maintenant, qui a dépassé la barre psychologique des 2 $ le litre dans le Grand Montréal ce matin. Il y a quelques stations-service de Laval qui affichaient même 2,9 $, donc c'est presque 2,3 $ le litre. La hausse devrait se poursuivre. On en parle avec Normand Mousseau, le directeur de l'Institut Trottier et professeur de physique à l'Université de Montréal. Bonsoir, M. Mousseau.
Bonsoir.
On sait qu'il y a l'inflation, il y a la guerre en Ukraine. Est-ce que la hausse qu'on subit ces jours-ci, c'est dû à ça?
C'est un mélange. En fait, on voit depuis quelques jours là, le prix de l'essence qui remonte encore avec des incertitudes liées, entre autres, à l'embargo annoncé par l'Europe. Mais aussi, on est dans une période où on change le type d'essence, c'est-à-dire que les raffineries ferment et réorganisent leur production. Et à chaque année, ça fait toujours un sursaut dans prix de l'essence.
Pourquoi un changement de type d'essence?
Typiquement, et au mois de septembre.
Pourquoi un changement de type d'essence? À cause, on passe d'une essence d'hiver à un d'été?
Oui, on change d'essence, donc c'est pas tout à fait la même formule. Plus on fait plus de mazout l'hiver, entre autres, pour chauffer. Donc, on va réorganiser un petit peu la distribution de la raffinerie. Et ça, c'est toujours une période de quelques semaines où, comme il y a moins de raffineries qui produisent, ça fait une tension sur le marché de l'essence et ça fait augmenter les prix. Puis on le voit, les bénéfices des raffineries ces derniers jours sont presque, pas tout à fait doublés, là, mais augmentés de 60 à 70 par rapport aux valeurs d'il y a un mois.
Là. Bon, mais là, vu que déjà le prix de l'essence était pas mal élevé, bien, on sent que ça fait encore plus mal, puis ça fait que ça dépasse la barre des 2 $. Le beau temps s'installe. Il y a plusieurs automobilistes qui ont envie de prendre la route des vacances. À quoi on doit s'attendre pour les prochaines semaines?
En fait, si les gens ont vraiment sentent le prix de l'essence, ils éviteront peut-être à faire du kilométrage et ça va faire une baisse. Mais après 2 ans de pandémie, on peut imaginer que les gens qui ont mis un peu d'argent de côté depuis 2 ans vont voyager de toute façon. Donc, la demande risque d'être forte cet été. Et une demande forte, de toute façon, ça n'accompagnera pas de baisse de prix majeure là, du côté de l'essence. Donc, on va payer cher notre essence cet été.
On paye toujours un peu plus cher l'essence quand même. L'été, il y a une tendance à la hausse en période estivale. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait atteindre encore des prix records du litre un peu partout?
Alors, c'est difficile à prévoir parce que ça dépend un petit peu de ce qui se passe, entre autres, sur les marchés internationaux, sur le prix du pétrole. Mais je pense que malheureusement, là, les risques sont élevés pour que les prix restent au-delà là, de 2 $, là, qu'on revoit ça là, cet été.
Dites-moi, qu'on soit automobiliste ou non, la hausse du prix de l'essence, surtout si elle perdure, ça a des conséquences vraiment pour tout le monde. Là. Tout finit par coûter plus cher quand l'essence coûte plus cher.
Tout à fait. Toutes les livraisons, donc tout ce qu'on importe, évidemment, coûte plus cher. Même quand on fait de la fabrication, notre essence, notre énergie coûte plus cher. Donc tout ça a un impact là, qui joue certainement à la hausse, là, tel qu'on le voit ces derniers mois.
On va se souhaiter des prix d'essence pas trop élevés pour qu'on puisse quand même profiter de la période estivale. Ouais,
il faut faire des choix. Ouais. Donc, choisissez des véhicules moins énergivores. Puis, donc, il y a moyen de réduire le coût, mais c'est sur la durée. Là. On ne peut pas faire ça facilement en quelques jours.
Oui, et des voitures moins énergivores, ben, ça se planifie sur le long terme. On le voit avec, entre autres, l'achat des véhicules électriques. Ça peut prendre des années avant d'en avoir un. Mais là, l'été, c'est bientôt, puis on a nos voitures, fait qu'il va falloir prendre des décisions. Merci beaucoup, M. Mousseau, d'avoir été avec nous.
Bonne journée.
Au revoir. 72e jour de guerre en Ukraine. Bien, le président ukrainien a accusé aujourd'hui la Russie d'utiliser la famine comme outil de torture à Mariupol. Pendant ce temps, le Kremlin semble toujours incapable de déloger les derniers combattants qui sont cachés dans ce méga complexe industriel de la ville. On va faire le point avec mon collègue Louis-Philippe Bourdeau. Salut Louis-Philippe.
Salut Michel.
Alors, le président Volodymyr Zelensky affirme que la Russie bloque l'entrée d'aide humanitaire.
Voilà, Zelensky qui affirme aujourd'hui que la Russie a bloqué l'entrée de nourriture, d'eau, de matériel humanitaire à Mariupol. Il a qualifié l'attitude de la Russie aujourd'hui d'inhumaine et de bestiale. Tout ça alors que, oui, les combats se poursuivent dans le complexe industriel qu'on voit en ce moment, le complexe Azovstal, où les combattants ukrainiens qui y sont retranchés semblent encore être en mesure de repousser l'assaut russe. Par contre, bonne nouvelle, au cours des dernières heures, on a appris qu'il y a au moins 50 civils, dont des enfants et des femmes, qui ont pu enfin être évacués de ce complexe. Mais c'est loin d'être terminé. Zelensky qui demande davantage d'aide humanitaire.
Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно вивести звідти цивільних, жінок вивести, дітей, багато дітей, які там залишились. Просто уявіть, це пекло, а там діти.
Et deux chiffres intéressants aujourd'hui, Michel. 400, c'est le nombre d'établissements de santé qui ont été démolis ou détruits partiellement depuis le début de la guerre. Et 600 milliards de dollars américains, ça, c'est le coût estimé de reconstruction depuis le début des affrontements de l'invasion militaire russe. Autre fait intéressant aujourd'hui, bien, Amnesty International qui a présenté une conférence de presse aujourd'hui et a présenté donc ses premières conclusions d'une enquête terrain, dénonce une série de crimes de guerre, notamment près de Kiev. On se rappelle de Boutcha. Voici la secrétaire générale d'Amnesty International.
What we have found so far are repeated violations of the same kind. You know, the indiscriminate attacks, the extrajudicial killings. There is certainly no measures being taken to stop, prevent or punish those that are engaging in those crimes.
On parlait d'essence tout à l'heure, on voit que ce conflit-là a vraiment des répercussions un peu partout dans le monde. Puis là, on a un autre exemple, les Nations unies qui s'inquiètent pour la sécurité alimentaire mondiale parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de grains qui sont coincés dans les ports en Ukraine.
Bloqués parce que les ports ne sont pas en mesure d'expédier leurs marchandises. On a vu aussi au cours des derniers jours des gares de train, des liaisons ferroviaires qui ont été attaquées, donc ça rend difficile l'exportation. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a 25 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées en Ukraine. Donc, oui, l'ONU qui appelle à la réouverture des ports, notamment le port d'Odessa, ça pourrait créer sinon de l'insécurité alimentaire, notamment dans des pays plus défavorisés. Et je termine aujourd'hui, Michel, en vous disant qu'il y a une rencontre du G7 prévue ce dimanche pour discuter de nouvelles sanctions contre la Russie. Pourquoi dimanche? Bien, c'est la veille de cette fameuse journée de la victoire où on s'attend à une déclaration importante de la part de Vladimir Poutine.
Merci beaucoup, Louis-Philippe. On surveille ça. On reste à l'international, mais on va se déplacer vers Cuba. Vous voyez les images, une explosion dans un hôtel du centre de la Havane qui a fait au moins 9 morts et une dizaine de disparus. Une quarantaine de blessés ont été aussi transportés à l'hôpital. C'est une fuite de gaz qui pourrait être à l'origine d'une détonation. L'hôtel, c'est le Saratoga. Il est connu pour avoir hébergé plusieurs célébrités, notamment Madonna et Beyoncé. La façade du bâtiment, vous avez peut-être vu sur les images, a été grandement endommagée. Même que les 4 premiers étages ont été complètement soufflés. Lors des élections municipales au Québec cet automne, il y a beaucoup été question des menaces, des insultes que subissent les élus. Il n'y a pas que les politiciens qui en sont victimes. Élections Canada a révélé cette semaine que certains de ses employés ont été la cible d'une hausse marquée et inquiétante de comportements violents, mais également de menaces lors des dernières élections fédérales. J'en parle avec notre collaborateur, Christopher Nardi, journaliste parlementaire pour le National Post. Bonsoir, Christopher.
Bonsoir, Michel.
C'est le directeur général d'Élections Canada, Stéphane Perrault, qui a témoigné de la situation aux députés fédéraux. Tu as suivi ça. Qu'est-ce qu'on a appris précisément?
Donc, c'est une situation qu'il décrit comme décourageante, Michel. Alors, lors des élections qu'on a eues à l'automne 2021, l'automne dernier, on a recensé plus de 100 incidents qui ont été rapportés par Élections Canada de violence, d'intimidation, de menaces envers les employés qui travaillaient le jour du scrutin pour Élections Canada. De ce nombre, la grande majorité ont même dû être référés à la police, ont nécessité une intervention policière. Pour le chef d'Élections Canada, c'est un phénomène croissant qu'on remarque de plus en plus depuis les 2-3 dernières élections, très inquiétant, ce qui fait que maintenant, son organisation est en train de chercher des façons de combattre cette violence-là, soit par exemple en augmentant la quantité de sécurité qu'il y a autour des bureaux du scrutin, ou même d'impliquer la police davantage proactivement pour empêcher ces flambées de violence-là.
Bon, mais pour contrer cette violence-là, il faut savoir d'où elle vient. Comment on explique qu'il y a des propos violents, des menaces envers des gens qui rendent en fait service à la démocratie en travaillant comme ça là, dans les bureaux de scrutin?
Donc, Michel, deux sources potentielles, a-t-il dit aux parlementaires hier. La première, on s'entend, c'était la pandémie. Donc, 2021, c'était un exercice démocratique assez unique en situation de quatrième vague. Et il a dit que tout ça nourrit évidemment beaucoup de mésententes chez certaines personnes. Et surtout, ce sont les masques qui ont créé des problèmes. Alors, une majorité des incidents qui ont été répertoriés aux dernières élections, c'était des gens qui ne voulaient pas respecter les mesures sanitaires et qui l'ont fait savoir, malheureusement, au travers des élections. Mais une autre partie du problème, Michel, c'est un problème croissant, encore une fois, et c'est la désinformation et la mésinformation qui commence à circuler par rapport à notre processus électoral. Et lui, il dit que même si la plupart des gens croient encore quand même fortement, ont confiance en Élections Canada, il y a une méfiance croissante à cause de théories de la conspiration, tout simplement de faux faits qui circulent, qui font que les gens ont un petit peu moins confiance au système et qui force Élections Canada à réagir fortement pour empêcher ce problème-là. Mais évidemment, ça alimente la violence et les menaces envers les employés.
Comme si, en fait, il y a un transfert entre ce qu'on constate dans les médias sociaux, hein, une mésinformation et des menaces, mais comme ça, en réel. Parlons également de l'entente intervenue entre les libéraux et le NPD, une entente qui prévoit que le gouvernement propose des changements pour les prochaines élections. On voudrait que le vote s'étire sur 3 jours plutôt qu'une seule journée.
Effectivement, mais M. Perrault, lui, hier, a dit aux parlementaires qu'il préfère nettement qu'on déplace plutôt le jour du scrutin, qui est généralement toujours le lundi, au week-end. Alors, le samedi et dimanche, il a énuméré ses raisons. On peut l'écouter dans une petite clip.
On a eu cette discussion-là dans le contexte du projet de loi C-19. Permet de donner aux électeurs une flexibilité, permet de donner à ceux qui travaillent ou qui souhaiteraient travailler aux élections l'opportunité de le faire, même s'ils ont par ailleurs un emploi ou s'ils sont étudiants. Donc ça aide au recrutement. Et ça assure aussi un plus grand accès aux écoles. Je pense qu'offrir plus d'opportunités de vote, c'est une bonne chose. Ma préférence, ce serait de le faire le week-end plutôt que sur 3 jours.
Essentiellement, Michel, ça fait des années maintenant qu'Élections Canada a de la misère à trouver des employés. Donc, déplacer sur 2 jours, mais le week-end, le jour de vote, aiderait beaucoup à sortir le vote et aussi avoir des endroits et des gens pour aider les gens à voter.
Alors, meilleur taux de participation peut-être et meilleure participation au processus avec des employés disponibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christopher. À bientôt.
Merci à toi. Salut.
Les candidats à la course à la direction du Parti conservateur du Canada ont croisé le fer hier soir à Ottawa dans un premier débat. On dit non officiel, mais ceux qui s'attendaient à un simple réchauffement ont eu droit à une bonne surprise quand même. L'affrontement a été assez musclé. On en parle avec notre collaborateur Yves Boisvert. Bonsoir, Yves.
Salut, Michel.
C'était musclé quand même, là.
C'était plus que musclé. Ouais. Je pense qu'on peut dire que c'était sanglant.
OK. 5 des 6 candidats y étaient. Sanglant, mon Dieu. Il en manquait un, Patrick Brown, qui n'était pas là. Mais clairement, on a eu droit à des affrontements entre Jean Charest et Pierre Poilievre.
Oui, ça, c'est une lutte à deux qui se dessine. Évidemment, Patrick Brown, surprendre. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine notoriété chez les conservateurs et qui peut-être va se faufiler entre les deux. Mais c'était un degré d'animosité, Michel, assez extraordinaire. Pierre Poilievre a refusé de serrer la main à Jean Charest.
C'est pas rien, là.
C'est pas rien, quand même. Ils sont dans le même parti, là.
Fait que c'est comme dire, t'es pas un des nôtres.
Ben, c'est ce qu'il a dit pendant toute la soirée, en fait. Il a dit, vous êtes pas un conservateur, vous êtes un libéral. Et l'autre lui dit, ben oui, mais j'ai été premier ministre, j'ai toujours été un conservateur au fédéral, mais au Québec, il n'y en a pas vraiment de parti conservateur. Et Poilievre dit, non, c'est vos politiques qui étaient trop libérales. Et donc, c'est vraiment un affrontement idéologique qui va plus que... qui dépasse le conflit de personnalité. Parce que généralement, quand tu as une lutte au leadership dans un parti, les contours idéologiques sont assez... connu, on va pas aller d'un extrême à l'autre. Mais là, c'est assez extrême, comme je me souviens pas d'avoir vu récemment.
Et les candidats, on peut penser qu'ils vont axer sur cette division-là, qui est déjà présente depuis toujours là, au sein du Parti conservateur.
Écoute, Michel, c'était tellement, polarisé. Je me demande comment ce parti-là va survivre après le vote. Si c'est Jean Charest
Donc, c'est
qui
un
lui
processus
veut ramener...
qui pourrait être particulièrement déchirant pour le parti.
Ah, il va l'être, parce que Jean Charest, il veut ramener le parti au centre. C'est un de l'école Mulroney, donc quelqu'un qui est centre-droite. Tandis que Poilievre, c'est vraiment la droite populiste. Il a parlé, il a critiqué les obligations vaccinales, il a soutenu le blocus des camionneurs. Et donc, c'est comme une autre sorte de parti conservateur. Et donc, si Poilievre l'emporte, bien, les supporters de Charest ne se reconnaîtront pas dans le parti-là et vice-versa.
Et j'allais dire dans la salle, est-ce que c'était beaucoup des supporters de M. Poilievre?
Oui, bien,
parce qu'on a entendu M. Charest se faire huer à plusieurs reprises.
Quand il a critiqué son appui aux camionneurs, Et même, il y avait une autre candidate, Leslie Lewis, mm-hmm. qui, elle, disait, vous ne les avez pas assez soutenus. Dans le fond, vous ne les soutenez pas. Donc, mais la salle, c'est un groupe de pression qui avait organisé ça. Donc, ça dépend qui était dans la salle. Ce n'est pas nécessairement représentatif.
Parce que les débats officiels, ça commence la semaine prochaine, mercredi en anglais, le 25 mai en français, du côté de Laval, oui, c'est vrai. Avec un premier débat corsé comme celui-là, est-ce que tu t'attends que ces débats officiels soient aussi corsés ou peut-être encadrés différemment?
Non, je pense que ça va être de pire en pire parce que les positions sont trop opposées et les deux, je pense que ça devient personnel, là, mais je m'attends à ce que ça soit de la même farine jusqu'à la fin. Et si je te le dis, ça risque de créer un schisme dans ce parti-là.
Et en bout de ligne, il va falloir qu'ils en choisissent un.
Oui.
Et il va falloir qu'ils soient derrière lui s'ils veulent aller un peu plus loin comme
il
parti.
Il va peut-être avoir une autre partie, par exemple.
Ça sera à suivre. Merci beaucoup et salut, à bientôt. C'est la fête des mères en fin de semaine, dimanche. Mais ce ne sont pas toutes les mères, mais les mamans qui veulent des fleurs ou du chocolat. Il y en a plusieurs qui ont d'autres revendications. On vous en parle tout de suite après la pause. Petit rappel, un dimanche, c'est la fête des mères. Il y a des femmes qui aimeraient que cette journée serve à faire avancer leurs engagements politiques. Bien, pour l'occasion, il y a deux mouvements bien connus qui s'unissent pour organiser une grande marche à ce passe du côté de Québec. Ma collègue Camille Lorrain Desjardins s'est intéressée à leurs revendications.
Normalement, c'est le moment pour célébrer nos mères. Et moi, je suis une mère, j'ai une mère. Puis normalement, ça soit on brunch, on soit des fleurs, on soit du chocolat. Puis à un moment donné, c'est juste fuck les fleurs, fuck le chocolat. Moi, ma façon de me célébrer, c'est d'être entendue. Je m'appelle Anaïs Barbeau-Lavalette. Je suis autrice, cinéaste et mère au front. Il y a beaucoup de femmes, de mères qui sont écœurées d'être en colère, en solitaire. Il y a beaucoup, beaucoup d'éco-anxiété dans le tapis. Moi, j'ai trois enfants qui commencent à lire puis qui décodent les grands titres des journaux. Puis j'essaie de les rassurer, de leur dire que ça va être correct. Mais je peux plus dire « maman s'en occupe », tu sais. C'est parce que c'est de la bullshit, ça.
En se mettant ensemble, non seulement on fait un plus, mais on fait un fois. T'sais, on fait une multiplication des forces. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on vise avec notre alliance aussi. Myriam Lapointe-Gagnon, je suis instigatrice et porte-parole pour l'organisme « Ma place au travail ». C'est là, en ce moment, les parents du Québec se rendent compte que non seulement ils mettent leurs enfants au monde dans une société qui est loin d'être par terre, mais aussi dans une société qui, présentement, est vouée à son autodestruction. Et ça, c'est inquiétant en tant que parent. Puis ça peut faire vivre beaucoup d'impuissance. Mais quand on se rend compte qu'on est des milliers à vivre cette même impuissance-là, mais on se sent moins seul puis on se met en action. Puis je pense que c'est vraiment ce qu'on a senti qui nous rejoignait. Puis notre désir aussi de demander plus de courage politique là, à nos élus pour que cette société-là, en fait, nous ressemble davantage, puis qu'on n'ait pas honte, puis qu'on soit fiers, en fait, face à nos enfants, de leur dire qu'on a tout fait pour leur laisser un monde à leur hauteur.
Concrètement, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement en place passe au crible de leur impact sur l'environnement toutes les décisions qui seront dorénavant prises. Comme c'est fait pour l'économie, par exemple. C'est quoi son coût? C'est pas juste un coût sur ce qui nous environne, c'est un coût sur la santé de nos petits, c'est un coût sur leur survie.
De faire de l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance un droit, comme l'accès à l'école, par exemple. Et ensuite, bien, ça peut sembler paradoxal parce qu'on s'appelle Ma place au travail, mais on revendique d'avoir un accès à une aide d'urgence aux familles temporaires pour les familles qui perdent un salaire en attendant que le réseau se complète.
Il y aura un cri du corps qui sera fait devant l'Assemblée, une espèce de danse guerrière. On se réapproprie aussi le sens de la colère. T'sais, on a souvent voulu éteindre la colère au féminin, ça dérangeait cette affaire-là. Avec une espèce de recul dans l'histoire, quand les mères sortent, c'est qu'il est déjà trop tard. Les mères, elles s'occupent, les mères, elles prennent soin, les mères abordent, les mères, elles rassurent. À partir du moment où elles prennent la rue, c'est parce qu'on est sur le bord de frapper le mur, si c'est pas déjà fait. Puis c'est pas que les mères qui vont aller marcher, là. C'est l'idée, c'est de déplacer la célébration puis de l'amener dans la rue à Québec puis dire, ce dimanche-là, pour célébrer, on va fêter. Ce sera pas juste être en tabarnak tous ensemble. On va être solidaires, on va marcher. Ça va être un rassemblement poétique.
C'est juste à moi, dans le fond, qui est touchée par cette crise-là. Bien, je rassemble presque 20 personnes, tu sais, à la marche. Donc, si chaque parent, au lieu de faire un brunch, au lieu de faire quelque chose pour la fête des mères, décide d'inviter tous ces gens-là qui se seraient rassemblés pour participer à quelque chose de collectif, ben on va être une maudite grosse gang.
On change de registre pour vous parler d'une véritable institution de la vie nocturne à Montréal, le cabaret Mado, qui célébrait hier soir son 20e anniversaire avec une soirée haute en couleurs. La popularité de ce lieu mythique dépasse largement la frontière du village. Sa renommée est mondiale, comme nous le dit ma collègue Fanny Lachance-Parquette.
Je m'appelle Madeleine Lamotte et je suis la reine du Québec.
20 ans de cabaret Mado. Oh! Est-ce qu'on s'attendait à faire 20 ans?
Non, vraiment pas, pas en tout. Je vais y aller. J'irai pas par quatre chemins. Non, non, non. Moi, j'ai commencé en me disant, si je fais 5 ans, je suis chanceuse parce que le monde des bars, ça allait vite à l'époque, ça changeait vite. Puis après 10 ans, je fais, ben, je pense qu'on peut se rendre à 15. Puis là, à 15, j'ai dit, je pense qu'on va se rendre à 25. Fait que là, il m'en reste 5 encore.
Alors moi, c'est Sacha Baga. Je travaille au cabaret Mado depuis 13 ans maintenant. Je suis la petite fille de Mado Lamotte, donc la fille de Rita Baga. Le cabaret Mado a eu un impact assez incroyable sur ma carrière de drague. En fait, moi, ça a toujours été mon rêve. Du moment que j'ai déménagé de l'Abitibi et je suis arrivée à Montréal, c'était mon rêve de travailler au cabaret Mado. Et pour moi, ben c'était de... Tant qu'à faire ce métier-là, je veux le faire avec les meilleurs.
Je m'appelle Paul Audier. Chez Mado, c'est une énorme plateforme pour les LGBTQ de la communauté, que ce soit des drag queens, des maquilleurs. Je connais d'autres danseurs qui ont commencé à faire du backup pour des drag queens qui maintenant voyagent à travers le monde comme danseurs.
Gabrielle Rondy, directrice générale par intérim de la SDC du village.
Quand on questionne les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal puis qu'on leur demande qu'est-ce qu'il y a à voir dans le village, qu'est-ce qu'ils répondent en premier?
Le cabaret Mado.
Vu que c'est dans le village, on pensait que c'est la première gang qui viendrait. Oui, un peu, mais ça a été tout de suite le grand public. Puis ça n'a pas été long que mon public est devenu fille, party, de célibataire, de bachelorette, puis de des petits couples qui ne savaient pas quoi faire dans le vendredi soir, puis des gangs d'amis, puis on... fait que c'est devenu moitié-moitié la clientèle. Puis là, maintenant, aujourd'hui, la communauté LGBTQ+, est comme en minorité.
Et au niveau économique, touristique, c'est un lieu qui est extrêmement important. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde chaque année pour venir voir des spectacles au cabaret Mado. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un attrait touristique important pour le village.
Aussi, avoir un bar de drague uniquement qui fait des shows 7 jours sur 7, c'est très rare au Canada. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'elle a fait ça tout en français.
Je suis la diva.
Je pense que c'est une des rares places où on présente ça. On est pas mal connus. Je suis bien fier de ça.
Ça, c'était pour moi une soirée magique que je n'oublierai jamais. Et puis c'est ça chez Mado. Tu sais, on peut rencontrer des gens de tous les jours. Puis aussi, dans le coin, il y a Charlize Theron.
C'est normal.
C'est normal.
Mado Lamotte, star internationale. Il me fait plaisir de vous présenter les nouvelles soirées d'humour du cabaret Mado.
Il y a 10 ans, quand j'ai vu que ça changeait un peu le monde de la drag queen, on n'était plus sûr. Il y a des gens qui disaient c'est fatigué, ce milieu-là, on a vu. Mais après ça, je me suis dit non. C'est comme le disco, c'est jamais mort le disco. Ça revient toujours. Puis ça finit par rester. Mais les drag queens, ça ne mourra jamais. Il va toujours en avoir. C'est de l'entertainment. C'est du spectacle, puis on en a besoin.
Le taux de chômage a atteint un creux historique au Québec en avril. Il est descendu de 0,2 dixième de point pour s'établir à 3,9. Dans un marché où l'on approche en fait du plein emploi, c'est pas facile pour les employeurs de dénicher des travailleurs. Mon collègue Phil Couture s'est rendu à la Foire de l'emploi à Québec pour voir comment les entreprises s'y prennent pour attirer de nouveaux talents.
La Foire de l'emploi 2022 se tient présentement à Exposité. On est venu rencontrer employeurs et employés qui sont en mode séduction. Puis on veut savoir c'est qui a le gros bout du bâton. Qu'est-ce que vous faites pour vous différencier? Qu'est-ce que vous proposez aux gens justement pour vous rendre attractifs sur le marché?
par exemple, la télémédecine qu'on va offrir à nos gens, des programmes pour les aider, la flexibilité qu'on a, les conciliations travail-famille.
On a un centre paramédical sur site, donc des chiros, massos qui viennent sur site, que les gens peuvent, on peut se déplacer. Des fois, on fait venir d'autres types de services comme le changement des pneus, une démobile mécanique, ces choses-là. Donc, c'est tout des petits plus qu'on est venu bonifier pour attirer les gens puis leur dire, écoutez, nous, on veut prendre soin de vous puis on veut que vous soyez heureux chez nous.
Comment ça marche quand quelqu'un se présente à votre stand puis vient vous questionner sur un emploi? Comment vous les abordez?
On commence par les aborder juste en questionnant qu'est-ce qu'ils recherchent exactement. Puis par la suite, on se déplace pour une entrevue vraiment express, donc assez rapide.
Rapide?
Oui, okay. Exact.
Fait qu'on...
On y va?
On s'essaye-tu?
Yes, on y va. Vous êtes dans quel domaine? C'est quoi que vous recherchez exactement?
Bien, moi, je suis dans le domaine des communications.
Au niveau de localisation, est-ce que vous êtes dans la région ici? Est-ce que vous êtes ouvert à des déplacements? Nous, on a un bureau à Saint-Nicolas qui peut être intéressant avec des possibilités de télétravail. Au niveau de vos disponibilités là, pour qu'on saisisse une entrevue ensemble la semaine prochaine, ça ressemble à quoi?
Dispo tous les jours.
Lundi à 9h?
Lundi à 9h, on fait ça. Vous voulez pas savoir mes qualités et mes défauts?
Non, j'ai vraiment confiance en vous.
Ça, on s'en reparle lundi à 9h?
Exactement.
Merci beaucoup. L'impression que j'ai jusqu'à présent, c'est que ce sont les chercheurs d'emploi qui passent l'employeur en entrevue et non le contraire. Est-ce que c'est seulement une impression ou c'est le cas?
Je serais prête à dire que oui, j'ai cette impression-là. Oui, je pense que maintenant, c'est un peu plus nous qui le gros bout du bâton, d'une certaine manière.
Mm. Oui, on sent que les gens sont vraiment à la recherche, fait que le salaire aussi. Ils sont beaucoup plus ouverts face au salaire à donner qu'à autrefois, là, effectivement.
Est-ce que le rapport de force a changé au cours des dernières années entre les employeurs et les chercheurs d'emploi?
Tout à fait. Le rapport de force a changé. Les employés peuvent magasiner où ce qu'ils veulent travailler. C'est plus l'inverse. Juste à Québec, depuis 10 ans, là, on a perdu 7 % de la population active à travailler, les 15-64 ans. On a 7 % de moins seulement les 10 dernières années. Alors, ce qui crée une demande importante de ratés et de pénurie. Alors, la pénurie qui amène les fermetures d'entreprises. Alors, oui, effectivement, comme on peut le dire en bon français, le gros bout du bâton, c'est les employés qui l'ont.
Québec part à la recherche de pirates informatiques pour trouver des failles qui peuvent compromettre la sécurité des données dans le système du gouvernement. Les chercheurs seront payés à la pièce entre 50 et 7500 $ chaque fois qu'ils vont réussir à identifier un problème de sécurité informatique sur un site du gouvernement. Les montants des primes varient en fonction de l'aspect critique et de l'importance de la faille informatique qui sera détectée. Le pic de la sixième vague de COVID-19 est passé ou près de l'être dans plusieurs régions du pays. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'administrateur adjoint de la Santé publique du Canada, le Dr Howard New. L'Agence de la santé publique recommande tout de même le maintien du port du masque dans les espaces clos. Le Dr New estime cependant qu'avec les températures plus clémentes, le Canada est dans une bien meilleure situation aujourd'hui.
Les infections augmentent pendant l'automne et l'hiver. Donc, je ne sais pas ce que c'est vraiment une saisonnalité, mais on sait que les facteurs pour la transmission, c'est plus important pendant la saison, que les gens sont plus à l'intérieur que pendant l'été, quand il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'extérieur.
Le procès de l'auteur des attaques au sabre survenu dans le Vieux-Québec le soir de l'Halloween 2020 tire à sa fin. Aujourd'hui, c'est l'avocat de Carl Girouard qui a commencé son contre-interrogatoire du dernier témoin à s'adresser au jury. C'est le psychiatre légiste Sylvain Fauché. Voici le résumé de ma collègue Laurence Royer qui suit ce procès.
L'avocat de Carl Girouard a bombardé de questions le psychiatre légiste Sylvain Fauché, qui a été mandaté par la Couronne d'émettre une opinion sur l'état mental de Carl Girouard le soir où il a commis l'irréparable. Il a notamment dû clarifier certaines parties de son rapport et préciser d'où viennent certaines des informations qui y sont contenues. L'avocat de la défense, Pierre Gagnon, lui a aussi posé des questions sur des liens qu'il a faits entre des symptômes de Carl Girouard et la conclusion qu'il a tirée, selon laquelle c'est un trouble de la personnalité narcissique qui a poussé Carl Girouard à passer à l'action. Par exemple, pendant son témoignage, le psychiatre a affirmé que la principale motivation d'une personne narcissique, c'est de ne pas ressentir de honte. La défense lui a alors demandé ce qu'il y avait d'anormal à vouloir éviter de ressentir de la honte. En réponse, le psychiatre a admis que c'est un comportement normal, mais qui devient anormal quand ça affecte le bon fonctionnement d'une personne. Et encore une fois, on est dans les fins détails. L'avocat de Carl Giroire et le psychiatre ont longuement échangé sur la différence entre un projet et une mission, qui sont deux termes qui ont été utilisés par l'accusé pour décrire ce qu'il a fait le soir de l'Halloween 2020. Le psychiatre a aussi dû détailler les raisons qui l'ont poussé à rejeter l'hypothèse que Carl Giroire est schizophrène et qu'il était en plein délire ce soir-là, comme le soutient la défense. Et par moments, Carl Giroire, qui assiste aux échanges, a l'air contrarié par ce qu'affirme le psychiatre. Le contre-interrogatoire doit se poursuivre la semaine prochaine, puis suivront les plaidoiries, puis les directives du juge. Ensuite, le jury devra prendre sa décision en se basant sur la vingtaine de témoins qui ont été entendus dans les dernières semaines et la quarantaine d'éléments de preuve qui ont été déposés à la Cour. Rappelons qu'ils doivent déterminer si Carl Giroire peut être tenu criminellement responsable ou pas en raison de son état mental, d'avoir tué deux personnes et tenté d'en tuer cinq autres avec un sabre le soir de l'Halloween 2020.
La Ville de Montréal a dévoilé une nouvelle sculpture pour rendre hommage à la communauté ukrainienne de la métropole. L'œuvre est baptisée Entre lacs et elle se trouve au Parc de l'Ukraine. C'est dans Rosemont, la petite patrie. L'artiste Georgia Volpe dit s'être inspirée des œufs traditionnels ukrainiens pour réaliser sa sculpture. Quelques 40 000 citoyens d'origine ukrainienne habitent dans cet arrondissement. Au retour, est-ce que le sixième album du groupe originaire de Montréal, Arcade Fire, répond aux attentes? On en parle avec le chroniqueur musical Mike Gauthier. À la pause. Extrait de la chanson Lightning qui figure dans le tout nouvel album Oui du groupe Arcade Fire. C'est une des sorties musicales en ce vendredi dont on vous parle avec notre collaborateur Mike Gauthier. Bonsoir Mike.
Bonsoir Michel.
Alors oui, ça c'est le sixième album du groupe originaire de Montréal. Est-ce qu'il est mieux que le cinquième qui avait pas été très très bien accueilli, hein?
Oui, c'est nettement supérieur. Aujourd'hui, là, lorsqu'on lit les critiques, les gens apprécient beaucoup ce nouveau disque de Arcade Fire parce que Everything Now avait été accueilli de façon un peu mi-chaud, mi-froid. Ouais, il y avait des gens qui avaient bien aimé, mais d'autres disaient, mais ce qui est arrivé avec Arcade Fire, comme moi-même aujourd'hui, quand j'ai écouté l'album, je me suis réconcilié avec eux autres parce que je trouvais que depuis qu'il avait gagné avec l'album de Suburb, c'est quand même le Grammy de l'album de l'année, toutes catégories confondues. Je trouvais qu'il avait tiré partout en se disant « Ah, on est bon », et puis ils ont décidé de s'éloigner un peu de ce qu'avait fait leur popularité. Mm-hmm. Et là, je trouve que, et c'est écrit partout aujourd'hui, que Arcade Fire retrouve, on entend beaucoup leur album Funeral dans ce nouveau disque aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut peut-être aller écouter un autre extrait que j'aime bien gros, c'est la pièce « End of the Empire ». Et Michel, possiblement que beaucoup de gens entendent cette chanson-là, End of the Empire, et se disent, on dirait qu'il y a le fantôme de Radiohead, pas très loin. C'est parce que le groupe a travaillé, entre autres, Arcade Fire a travaillé avec Nigel Godrich, un excellent réalisateur qui a travaillé sur...
Ah bon, ceci explique cela.
Voilà, exactement. Mais je trouve qu'il a amené de belles nuances là, dans ce nouveau disque de Arcade Fire.
Un dernier morceau, plutôt minimaliste, mais qui t'a particulièrement touché.
Oui, j'ai aucune idée pourquoi. Le texte est quand même normal. C'est un beau texte, mais je trouve que la facture minimaliste, guitare acoustique, piano, est vraiment bonne. C'est la dernière chanson de l'album, puis c'est la pièce-titre qui est « Oui » qu'on vous offre tout de suite. Allons écouter ça. Would you wanna get off this road with me? Wanna get down on one knee? Would you wanna get off this road with me? Alors ça, c'est la pièce-titre de l'album « Oui ». Ça, c'est ma préférée sur tout le disque de Arcade Fire. Et Michel, vous savez, aujourd'hui, Montréal rayonne fort sur toute la planète musicale.
Parce qu'il y a un autre sixième album, là.
Oui, exactement. C'est Simple Plan qui présente son nouvel album. Ça fait quand même 6 ans qu'on attendait ce nouveau disque-là, parce que, comme tout le monde, ils ont commencé à travailler sur de nouvelles chansons avant la pandémie. Puis quand c'est arrivé en 2020, bien, tout a stoppé dans l'industrie musicale. Ça fait qu'on se retrouve 2 ans plus tard. Et encore une fois, Simple Plan avait promis de revenir au son des premiers albums. Ça fait quand même 20 ans que leur premier disque a été lancé. Ils ont tenu parole avec ce qui avait été le premier extrait des Antidote. On va vous en faire jouer un petit bout tout de suite.
Mike, le groupe n'a jamais été moralisateur, mais il y a quand même de beaux messages dans ses chansons. Entre autres, il y a une chanson dont tu veux nous parler là, de cet album-là, qui parle d'anxiété.
Exactement. C'est Anxiety, le titre, et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la génération dans laquelle on est, on a trouvé ça difficile pendant la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des crises d'anxiété, puis je trouve que c'est la toune à écouter si malheureusement vous devez vivre avec ça. C'est intéressant parce qu'il parle à l'anxiété en disant « Je tente de te débarrasser de toi, je suis jamais capable, je m'endors, puis tu gagnes tout le temps. Ouais. » Allez écouter ça, belle chanson.
L'ennemi de tous, l'anxiété. D'ailleurs, oui. Le guitariste du groupe, Jeff Stinko, va être notre invité à 22h ce soir. On va avoir la chance de lui parler. Hey, merci beaucoup, Mike. À bientôt.
Ça m'a fait plaisir. Bye bye. Bon week-end.
C'est pas la première fois qu'on vous parle de l'art NFT, des œuvres numériques uniques qui se vendent sur le web. Bien, il y a une artiste de la région de Québec, Caroline Bergeron, alias Aro, qui a décidé de plonger dans cet univers. Jean-Simon Bull l'a rencontrée alors qu'elle présente une nouvelle exposition intitulée Introspection. Elle nous explique un peu sa démarche.
L'œuvre interpelle nos émotions les plus profondes.
Tel un voyage au cœur de notre art.
C'est qui Aro exactement?
Aro, c'est Caroline Bergeron, donc une artiste professionnelle, entrepreneur, qui a décidé de signer ses œuvres Aro. Le Aro a pris la forme aussi de authentique, romantique et original, parce que c'est un acrostiche pour moi qui signifie, qui me représente très, très bien.
On rentre dans le virtuel avec l'art en NFT. Oui. C'est quelque chose pareil qu'on soit rendu là. Hein?
Bien, c'est très déstabilisant pour un artiste qui, normalement, quand on peint une œuvre à plat, moi, je travaille avec des couteaux à peindre, des spatules, puis de penser que cette œuvre-là peut être transformée en une œuvre virtuelle et qu'elle soit aussi animée. Donc, ça amène vraiment une dynamique et que ça soit quelque chose qui se vend finalement sur le web ou en tout cas, tu sais, que ça devient plus une œuvre qui est tangible physiquement, mais qu'il devient par son mode de diffusion.
Qu'est-ce que ça amène comme possibilité pour les artistes d'aller en mode NFT? Ça doit ouvrir des horizons, j'imagine.
Bien oui, parce que le NFT est un trait tendance. De plus en plus, c'est un marché qui se développe. Il y a des œuvres qui se sont vendues à plusieurs dizaines de millions de dollars en œuvres virtuelles. Et le concept du musée aussi, les musées sont de plus en plus ouverts à intégrer le volet finalement sur des moniteurs, des œuvres qui sont diffusées de façon animée. Donc, ça ouvre la possibilité aux galeristes et aux artistes d'être vus et reconnus à travers le monde dans des événements technologiques et artistiques, bien sûr. L'avantage que je vois du NFT, c'est que dans le fond, ça devient bon, un item unique qui laisse une trace virtuelle à vie. Et qui est indestructible.
Tu achètes le tableau qui est en face de moi. Je sais que j'ai ce tableau-là, je peux expliquer le contexte. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça a autant de valeur, être propriétaire d'une œuvre NFT, selon vous?
C'est une question, je pense, de goût versus le fait de pouvoir toucher le tableau, de voir la texture et autres, versus le fait d'avoir une œuvre animée. Je pense qu'il y a des gens qui vont être attirés par l'espèce de nouveauté que ça va créer, puis l'unicité aussi du mouvement. Donc, de trouver une façon d'animer une œuvre, je pense que ça devient quelque chose qui est très intéressant à explorer.
On dit souvent que l'art est le reflet de son temps. C'est quoi notre temps?
C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'on est une mixité de plein de choses. La beauté du monde, la beauté de la nature est quelque chose qui va rester, qui a toujours été présent, même si elle a évolué. Donc, pour moi, l'art est un témoignage puissant de notre culture et des gens qui ont pavé le chemin, hein, qui laissent une certaine trace.
OK, Québécois Bruny Surin sera le chef de mission du Canada pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. L'ex-sprinteur de 54 ans a participé à 4 rendez-vous olympiques, en plus de remporter l'or au relais 4 x 100 mètres aux Jeux d'Atlanta en 1996. Surin a aussi remporté plusieurs médailles en Coupe du monde. On vous parlait hier, hein, le père de la loi 101, Camille Lorrain, aurait fêté son 100e anniversaire aujourd'hui. Bien, pour l'occasion, la Société des musées du Québec a annoncé la création d'une exposition itinérante qui va rendre hommage à cet homme politique. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs débloqué 950 000 $ pour que ce projet puisse voir le jour. Et on termine en beauté en vous parlant du soleil, oui. Et vous voyez ces terrasses parce que, oui, il devrait faire beau pour toute la semaine prochaine, selon Environnement Canada. Pour le moment, pas un seul jour de pluie qui est prévu jusqu'à jeudi prochain. Dans la région de Montréal, le mercure pourrait même atteindre les 27 degrés pour mercredi et jeudi, une température parfaite, justement, pour profiter un peu de l'extérieur. Alors, c'est tout pour le moment. Moi, je vous donne rendez-vous au fil 22. On va revenir sur le conflit en Ukraine avec l'analyse de Pierre Jolicoeur du Collège militaire royal et en entrevue, le guitariste de Simple Plan, Jeff Stinko, qui sera notre invité. Ils vont venir nous parler du nouvel album du groupe. On se retrouve à 22h. Bye-bye. Bonne soirée.